Alors, je voudrais vous présenter, en fait, plus qu'une histoire de l'identité, en fait, quelques éléments de l'histoire de l'identification en France, mais aussi un petit peu en Europe, du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, et plus particulièrement, donc, celle de l'identification écrite, et ce que nous appelons aujourd'hui les papiers d'identité, pour introduire cette journée. Et donc, pour introduire mon propos, en fait, je voudrais vous raconter deux histoires d'identité et d'identification que vous avez, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et que je voudrais rapprocher. Alors au XVIe siècle, dans un village des Pyrénées qui se trouve aujourd'hui en Ariège, se déroule l'affaire Martin Guerre, une célèbre dans les annales judiciaires. Vous savez que c'est l'histoire d'un homme en fait qui avait quitté son village pendant de longues années pour devenir soldat, qui est revenu après 8 ans d'absence et qui a repris sa place parmi les siens, notamment auprès de sa femme. Mais plusieurs habitants mettent son identité en doute au bout de quelques années, et affirment qu'il est un imposteur. S'engage alors un procès, resté célèbre, où l'on cherche à savoir s'il est bien le vrai Martin Guerre, en examinant les témoignages des villageois, ses propres souvenirs, son accent, ses cicatrices, la façon dont il parle, jusqu'à d'ailleurs comparer ses sabots, ses chaussures avec son pied. Les magistrats sont très partagés et il est sur le point d'être blanchi quand revient, en fait, le véritable Martin Guerre qui, évidemment, confond l'imposteur. Alors faisons un bond dans le temps pour une autre histoire, une histoire fictive, celle-là, mais inspirée d'affaires réelles, celle du colonel Chabert dans la France donc de la Restauration, telle que l'a imaginé Balzac, donc qui se situe dans les années 1815-1830. Chabert, vous savez, c'est un colonel de l'armée de Napoléon, disparu pendant la campagne de Russie, déclaré mort, mais qui revient en France après la guerre. Sa femme s'est remariée entre-temps avec un riche aristocrate, et Chabert, en fait, ne va jamais pouvoir reconquérir son identité, se heurtant à un ordre mis en scène par Balzac comme étant celui donc du droit, de l'écrit, contre lequel la parole de Chabert et même son corps ne peuvent rien. Et Chabert finit sa vie dans un hospice, sous un numéro matricule presque anonyme. Alors que montre le rapprochement de ces deux histoires? Eh bien qu'à l'époque de Martin Guerre, l'identité d'une personne ne repose pas, si vous voulez, sur des documents écrits ou légaux, mais davantage sur ses relations qu'elle entretient avec les membres de sa communauté, locale, familiale, professionnelle, des relations qu'on peut qualifier d'interpersonnelles, si vous voulez, des relations de face à face. À l'inverse, l'époque de Chabert voit triompher l'ordre de l'identification écrite, un ordre des papiers, des registres, sans lesquels il n'est pas d'identification certaine. Et entre ces épisodes, finalement, il s'est produit une grande mutation dans la société française, au cours de laquelle l'État, en fait, principal acteur ici, a contribué à mettre en place tout un ensemble de techniques d'identification écrite, dont beaucoup forment la matrice actuelle, contemporaine, de techniques, de documents que nous connaissons bien aujourd'hui, notamment le passeport et la carte. Sous la pression donc de quels facteurs, dans quelles circonstances s'est développé ce grand mouvement en faveur de l'identification écrite, et l'identification à distance également, qui a popularisé ces documents? Quels étaient les documents utilisés? Comment reconnaissait-on un individu? Enfin, comment les populations en France ont-elles subi, accepté, se sont-elles adaptées à cette grande transformation des codes de l'identité dont je vous ai montré à très grands traits quelques éléments? Alors, dans un premier temps, donc, je vais revenir très rapidement sur ce qu'on pourrait appeler la genèse justement de cette identification à distance qui repose sur l'écrit. Alors celle-ci s'est faite en fait très largement en liaison avec le contrôle de la mobilité des personnes. Les autorités, en fait, à l'époque moderne, ne cherchent pas à contrôler l'ensemble des mouvements de la population sur leur territoire, elles en seraient d'ailleurs bien incapables, mais il est plus juste d'affirmer que certains groupes, parce qu'ils sont mobiles, font l'objet de contrôles et de mesures d'identification particulières. Un certain nombre de secteurs, donc, ont, si vous voulez, motivé l'intervention donc, des autorités qui ont cherché à leur imposer donc, ces formes d'identification écrite. C'est d'abord donc la recherche de criminels et de prisonniers en fuite par la justice, qui a été un des premiers moteurs historiquement donc, du développement de l'identification écrite dans un long mouvement qui commence au XIVe siècle et qui, avec l'Inquisition, continue. Deuxième groupe, je crois, extrêmement important, deuxième type, si vous voulez, de domaine, ce sont les voyageurs qui, pendant les épidémies, les grandes épidémies, notamment de peste, se sortaient des régions infestées et qui étaient soumis à des contrôles qui reposaient sur l'écrit aussi. On imposait notamment de porter ce qu'on appelait des billets de santé, ou des patentes de santé, des documents donc prouvant, avec nominatif, qui prouvaient donc qu'ils n'étaient pas passés justement par une région infectée et qu'ils étaient en bonne santé. Le recours à l'identification écrite est également stimulé par le développement de l'assistance et de la question sociale. Il s'est produit, si vous voulez, à partir de la, vers la Moyen-Âge central, ce que certains historiens ont appelé la déconversion de la société féodale, c'est-à-dire donc un très grand nombre donc, de personnes se retrouvaient exclues en fait, des cadres du travail qui étaient en place, qu'ils soient les structures agraires ou les structures corporatives, artisanat, et ces populations qui étaient les inutiles au monde, comme on les appelait, eh bien, se sont retrouvés donc surveillés, obligés, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, parce que ce n'était pas toujours réalisable, mais en tout cas empêchés dans leur mouvement, obligés de s'insérer donc dans des lieux de travail sur place. Et puis les institutions hospitalières qui ont commencé à se développer justement à cette époque et surtout donc à partir du XVIe siècle en Europe, en particulier en France, donc au XVIIe siècle, vous avez l'hôpital général. On cherchait à restreindre l'accès des ayants droit, si vous voulez, à leur service d'assistance, justement en séparant des étrangers de ceux qui pouvaient en bénéficier, qui étaient généralement les individus du lieu. Et donc là aussi, vous avez la mise en place d'instruments de tri, de séparation qui repose sur les papiers, justement, entre, si vous voulez, des insiders et des outsiders. Enfin, un dernier secteur donc, a été extrêmement important, c'est celui donc, des hommes de guerre, des gens de mer, des populations qui étaient capables de servir sur les marines de guerre et qui ont fait l'objet, en particulier en France, de mesures très concrètes pour permettre donc, leur contrôle. Il s'agissait d'éviter, pour les armées de terre, donc, la désertion. Et puis, pour les gens de mer, il s'agissait aussi donc, d'empêcher que ces individus donc, disparaissent, se retirent des côtes au moment où ils pouvaient être mobilisés pour servir dans les armées royales. Tout cela a aussi un rapport avec le développement d'armées professionnelles qu'il fallait payer. Et donc, il était nécessaire de connaître donc, les effectifs et de pouvoir empêcher toutes sortes d'escroqueries qui pouvaient avoir lieu à ce moment-là. D'où le développement, en particulier au XVIIIe siècle, donc, de vastes systèmes de registres sur lesquels je reviendrai. Enfin, la fonction de contrôle des voyageurs aux frontières des États que nous connaissons aujourd'hui, que nous, je dirais, que nous attribuons spontanément, donc notamment à la présence de passeports, eh bien, elle s'est développée extrêmement tard, je dirais. En fait, elle apparaît véritablement à la fin du XVIIIe siècle, avec, si vous voulez, la Révolution française, le développement de l'État-nation, avec l'instauration surtout d'une séparation stricte entre une communauté nationale et puis des étrangers, une séparation qui n'existait pas véritablement avant cette époque. Alors, dans cette histoire, dont j'ai esquissé très rapidement un certain nombre d'aspects, le XVIIIe siècle représente une étape majeure pour les questions qui nous intéressent et qui sont des questions contemporaines, et pour plusieurs raisons. C'est d'abord principalement au siècle des Lumières que s'opère l'accélération de ce mouvement vers l'identification écrite et l'identification à distance. L'usage des papiers, le basculement vers ces nouveaux codes de l'identité s'affirme de manière très, très évidente dans ce dernier siècle de l'Ancien Régime français, bien avant, un petit peu avant d'ailleurs, la Révolution française. Le siècle des Lumières coïncide aussi avec la multiplication de projets d'identification des populations, qui repose en particulier sur un couple technique, c'est-à-dire le registre et le certificat d'identité portatif, qu'on en juge donc. En 1716, par exemple, sont mis en place par l'administration militaire des registres centralisés de tous les soldats des armées françaises, à cette époque-là, qui sont installés donc à Versailles. Un système donc de registres du même type est ainsi inventé aussi pour les mendiants de tout le royaume, qui serait arrêté donc par les forces de police à peu près à la même époque. Alors, les projets fleurissent à nouveau avec au milieu du XVIIIe siècle avec l'aggravation de la question sociale, la volonté aussi donc de la part des responsables policiers d'identifier les populations pauvres, marginales ou laborieuses pour attribuer, si vous voulez, à chacun une place fixe, repérable, et les réincorporer dans les cadres d'une société dont le tissu social, si vous voulez, est en train de se désagréger sous leurs yeux à cause de la mobilité géographique, sociale. À Paris, donc, justement, un officier de la maréchaussée qui s'appelait Guillotet a rédigé un projet tout à fait prodigieux qui a été édité, dont je vous livre ici un extrait, un détail d'une illustration, à la fois donc un texte et aussi et des illustrations. Un immense registre de toute la population parisienne, chaque habitant étant fiché, et ces fiches étant classées par famille, puis par immeuble, puis par rue, puis par quartier. Et dans les illustrations, Guillotet représente en fait une vaste salle dont les murs sont couverts de fichiers, avec un plan gigantesque de la ville, et des tiroirs où les commis de la police pourraient puiser l'information dont ils auraient besoin sur une personne. Et voilà, vous avez ici donc justement un détail donc de cette salle, je n'ai pas de vue globale, mais qui montre donc le commis ici avec sous les lettres donc A et B, je pense que c'est par rue que c'est classé. Guillotet a d'ailleurs inventé même une sorte de machine, une sorte de roue dans le mur pour faire tourner donc les fichiers et pour diminuer donc le stockage. Alors il s'agit bien sûr d'un projet imaginaire, d'une utopie policière, si vous voulez, qui n'a jamais vu le jour. Mais elle indique des potentialités étonnamment modernes. Alors, une autre innovation considérable à signaler pendant cette époque, toujours au XVIIIe siècle, c'est la banalisation d'une technique, le signalement, la description de l'apparence physique. Jusque-là, si vous voulez, c'était une pratique qui était réservée aux réprouvés, c'est-à-dire aux prisonniers, aux criminels, aux esclaves, aux soldats aussi, qui étaient considérés comme des fugitifs en puissance, mais pour les autres parties de la population, il était indigne de prendre le signalement de quelqu'un. Jusque-là, tout change à partir du début du XVIIIe siècle, puisque cette description physique envahit les certificats, les passeports, qui se multiplient à la même époque, pour devenir une pratique administrative banale, une évolution qui est tout à fait qui est terminée, je dirais, au début du XIXe siècle, où la pratique est généralisée. À cette époque, sous Napoléon, même les permis de chasse comportent un signalement, ce qui aurait été inimaginable un ou deux siècles auparavant. Donc c'est l'irruption du corps dans l'identification dans l'identification à distance. En effet, certaines institutions policières, comme la police de Paris, des institutions pénales comme l'administration des galères, qui se trouve donc dans certains ports français, puis des bagnes ensuite, ou encore l'administration militaire, se dotent de vastes jeux de registres qui concentrent des données sur les personnes qu'elles veulent surveiller ou retrouver, notamment sous une fausse identité. Les soldats, s'ils deviennent déserteurs, des mendiants et des vagabonds qui seraient arrêtés après s'être évadés donc, d'un lieu donc, de répression, elles enregistrent donc le nom et le signalement de chacun. Apparaît en fait une ambition nouvelle, je crois. Retrouver par le corps, par le signalement, un individu recherché, même s'il se cache sous une fausse identité. Comment ? Alors, prenons l'exemple des armées, qui est le mieux connu et qui subsiste, alors qui est c'est un dispositif qui subsiste jusqu'à la Révolution et même au-delà. Régulièrement, en fait, l'administration militaire, qui est installée à Versailles, qui est la capitale, le siège du gouvernement, compile des listes de déserteurs, avec leur signalement, d'après des informations qu'elle reçoit des différents régiments. Ces listes sont compilées dans un gros volume qu'on appelle un livre des déserteurs, un livre qui est envoyé ensuite, après avoir été imprimé, aux principales cours de justice, à la police des grandes villes et aux ports. Le travail à ce moment-là donc de l'administration, c'est permet en fait de comparer à des centaines de kilomètres les suspects qui peuvent être arrêtés et le signalement des déserteurs que cette administration a accumulé. Le travail des employés du bureau des déserteurs, qui est responsable de cela à Versailles, est tout à fait fascinant. En fait, les prisons, les magistrats leur adressent parfois directement des signalements écrits d'hommes arrêtés à Toulouse ou à Marseille et qu'ils comparent avec leur propre registre. Et ces employés inaugurent quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire l'identification par comparaison de signalements de personnes qui ne sont jamais physiquement présentes devant eux, qui n'ont jamais vu d'ailleurs, mais dont ils peuvent éventuellement attribuer, donc auxquelles ils peuvent attribuer une identité, simplement en comparant des descriptions physiques. Alors c'est encore une pratique peu développée et difficile, je vais y revenir dessus, mais c'est à ce moment-là, je crois, qu'elle apparaît, et c'est quelque chose qui est amené à se développer par la suite. Alors, je voudrais parler maintenant des documents d'identification qui existaient à l'époque et vous présenter donc concrètement de quoi il s'agissait. Alors, en fait, tout d'abord, je crois qu'on entre dans ce qu'on appelle, à l'époque, cette époque moderne, si vous voulez, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est véritablement un âge du registre. Non pas de la fiche, on parle beaucoup de fichiers aujourd'hui, mais des registres, qu'il s'agisse de prisonniers, de criminels, de soldats, de voyageurs, donc les identités des personnes sont enregistrées, c'est-à-dire littéralement inscrites dans des cahiers, des gros volumes, tenus par des embryons d'administration centrale ou municipale. Se pose assez vite, en fait, le problème du classement des identités sous cette forme, notamment avec la multiplication des registres et leurs volumes à cette époque. Par exemple, un registre central des mendiants de tous les hôpitaux généraux du royaume est mis sur pied en 1724, mais les commis qui doivent faire ça, ils sont 8, ils ne sont pas très nombreux, reçoivent toutes les semaines des dizaines de signalements, de feuilles. Comment les classer ? Comment aussi retrouver l'identité d'une personne à partir des données qu'on a installées ? Ça, c'est le grand problème de ces administrations. Donc du coup, on voit apparaître, en fait, parallèlement, avec un petit peu de décalage, à partir de la fin du XVIIe siècle, un autre support qui est amené à être plus souple que le registre, c'est la fiche ou encore le dossier, c'est-à-dire un ou plusieurs feuillets séparables qui sont donc actualisables et reclassables à volonté. Alors en France, cette innovation, cette fiche, si vous voulez, il semble qu'elle apparaisse pour la première fois, mais ça demande, il y aura sans doute d'autres découvertes, j'espère, dans les archives de l'administration des galères sous Louis XIV, où les geôliers ont créé quelque chose de tout à fait astucieux. Ils ont construit des petites boîtes dans lesquelles donc ils ont mis des petits cartons avec une fiche, en fait, l'identité de chaque galérien, ce qui reproduit leur position dans le bateau et qui permet ensuite de faire, si un galérien change de bateau, de le mettre dans une autre boîte. Chaque boîte correspond à une galère différente. Voyez. Et donc c'est la fiche amovible permet une gestion beaucoup plus souple que les gros registres. On peut citer aussi un exemple célèbre, c'est un fichier qu'avait réalisé un inspecteur de police qui était chargé de la librairie à Paris, la censure en fait, au milieu du XVIIIe siècle, qui s'appelle Joseph Demery, et qui a donc un fichier étonnamment moderne sur plusieurs centaines d'écrivains, de libraires, d'imprimeurs, de colporteurs, qu'il est chargé de surveiller avec des fiches donc pré-imprimées, mais pour son usage personnel. La fiche, en fait, je pense, ne supplante le registre que vers le milieu du XIXe siècle, beaucoup plus tard, vous voyez. Par exemple, lorsqu'en 1830, le préfet de police de Paris, Gisquet, met sur fiche ce qui existait déjà dans l'administration policière parisienne, c'est-à-dire les sommiers judiciaires, des listes de condamnés, etc., qui étaient jusque-là sur des registres. Alors le deuxième aspect, c'est, je dirais, la multiplication des documents portatifs. Alors, ici, donc, j'y reproduis un passeport tel qu'on peut les voir apparaître, donc se multiplier au XVIIIe siècle. Vous voyez que c'est une simple feuille à cette époque, et avec uniquement donc une face qui est imprimée. En fait, il y a de multiples documents portatifs remis par une autorité qui existent en fait à l'époque moderne, en indiquant donc l'identité de leur porteur. Alors parmi les plus anciens, il faut, avant ces documents de papier, il faut mentionner ce qui était le plus courant, c'est-à-dire les insignes, ce qu'on appelait les insignes, les signas, donc qui étaient des jetons, des médailles, que devaient porter de façon visible, dès la fin du Moyen-Âge, les pèlerins, les colporteurs, les courriers diplomatiques, ou encore les pauvres qui étaient autorisés à mendier dans une ville, ou encore les voyageurs qui voulaient entrer dans une ville pendant une épidémie de peste. Alors les documents sur papier se multiplient à l'époque moderne, surtout à partir du XVIe siècle, peut-être parce qu'ils permettent d'indiquer plus d'informations, que l'usage du papier, qui est une invention récente en fait en Occident, se démocratise. Ainsi se multiplient donc des documents qu'on appelle les passeports, passeports, certificats valant passeport, etc. Alors leur forme évolue lentement, et cette évolution cependant s'accélère au XVIIIe siècle. En fait, à côté de modèles entièrement manuscrits, des formulaires imprimés donc apparaissent peu à peu, comme celui-ci, pour devenir la règle au début du XIXe siècle. Ils deviennent aussi individuels. Les passeports étaient très souvent collectifs au départ. Et évidemment, donnaient peu d'informations sur les personnes qui les portaient. Les passeports en France commencent à être standardisés en fait sous la Révolution française, qui définit en 1792 un premier formulaire uniforme. Mais c'est surtout donc avec le modèle suivant, le passeport à souche qui est inventé donc par l'administration napoléonienne en 1806. Alors là, vous avez seulement une partie du passeport, c'est la partie qui est restée dans les registres. Il y avait une grande feuille qui se trouvait donc à droite et qui a été coupée, comme vous pouvez le voir, mais la plupart des informations donc restent sur la souche. Un passeport donc uniforme en 1807, donc. Qui est réputé infalsifiable avec des encres spéciales, un papier qui réagit chimiquement si on tente d'effacer l'encre, des filigranes, tout un système de souches pour permettre la reconnaissance. Donc l'histoire du passeport moderne, en fait, commence, je crois, véritablement avec ce passeport. Alors avec la multiplication des documents, se produit aussi une démultiplication des supports, spécialisation en particulier à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'invention, en effet, d'autres supports que ces feuilles, c'est-à-dire notamment l'invention du livret, qu'on appelle aussi un petit cahier, qui est instauré dans les années 1770 pour les ouvriers, mais qui est promis à un grand avenir, puisque nos passeports, en fait, sur le plan matériel, nos passeports contemporains, sont des livrets, en fait, avec des pages donc, qui permettent l'accumulation des visas. De même est inventé à la même époque le support de la carte, qu'on appelait encore cartouche au début du XVIIIe siècle, qui vient de l'italien cartoccio, ce qui a donné carton aussi. Donc les soldats, ainsi, avaient sur eux des cartouches de congé. Alors sous la Révolution française, il y a tout un système donc, de cartes de sûreté qui est réservé à la population masculine des grandes villes, en particulier à Paris, et sous une forme extrêmement condensée, forme d'un petit carré, si vous voulez, permet d'avoir les informations sur l'identité du porteur. Alors c'est plus petit, plus solide aussi que la feuille de passeport, et c'est en fait l'ancêtre de notre carte d'identité, quelque chose qu'on peut avoir sur soi en permanence. Alors enfin, dernière chose, c'est avec la Révolution française, la prise en charge de l'identification des individus par l'État. Jusqu'en 1789, presque tout le monde pouvait délivrer un passeport ou un certificat à quelqu'un, depuis le curé de paroisse jusqu'au roi lui-même. Alors avec la Révolution, ce sont les municipalités qui seules ont le droit de distribuer les passeports, avec ce qui se deviendra les préfectures. Bientôt, d'ailleurs, en pouvant s'appuyer sur les registres de l'état civil qui leur sont confiés à partir de 1792. Donc c'est l'employé de mairie qui devient la première autorité en matière d'identité. Et là, c'est une rupture majeure dans l'histoire de l'identification en France, puisque c'est l'État qui est désormais le garant de l'identité de chacun et qui l'atteste par des registres d'état civil et des passeports officiels qu'il délivre. Alors, pour terminer, je crois qu'il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que l'histoire de l'identification est celle de progrès continu et le triomphe annoncé de l'identification écrite ou encore une prise en charge presque totalitaire de chaque individu par un État omniscient où tout le monde serait fiché ou enregistré. Tout simplement d'abord parce que le témoignage oral reste un élément important, sinon essentiel, encore au XIXe siècle. En effet, pour obtenir un passeport, eh bien, il suffit généralement de se présenter avec un ou deux témoins dignes de foi des habitants du lieu. Et donc, on sait que près des mairies, il est notoire que les aubergistes servent fréquemment à attester l'identité de tous leurs clients. C'est toujours la même personne qu'on voit dans les archives de police, moyennant quelques pièces. Et les employés, ou même la police, s'embarrassent peu d'ailleurs de savoir qui est vraiment ce voyageur qui demande un passeport. Et on délivre assez facilement ces documents pour circuler en France. Donc les bases de l'identification écrite restent fragiles. L'histoire des papiers d'identité est aussi celle de l'incertitude et de la fraude à cette époque. De l'incertitude, car au XVIIIe siècle, la maréchaussée emprisonne des individus qui sont manifestement suspects d'être des repris de justice, parce qu'ils sont marqués, notamment, c'était l'époque encore où on marquait les condamnés. Mais ceux-ci n'hésitent pas donc à déclarer leur identité, mais ils prétendent qu'ils ont purgé leur peine. Du coup, quand on écrit donc au tribunal, où ils ont censé avoir été jugés, eh bien, il est impossible de retrouver leur sentence. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Dans d'autres cas, on a affaire à des imposteurs, comme par exemple Louis Le Roger, donc c'est un jeune soldat pauvre qui harcèle de lettres une veuve, la veuve donc d'un grand aristocrate parisien, en déclarant être un enfant naturel de son mari, ce qui est évidemment totalement invérifiable. Il est arrêté par la police, qui prend très au sérieux ce genre d'affaires, et la police n'a pas trop de peine à démolir l'identité qu'il prétend avoir. Il prétendait avoir reçu une éducation cachée. Mais en revanche, la police est incapable de prouver qui il est. Et il n'est donc pas rare de trouver dans les prisons des individus qui n'ont pas d'identité certaine. L'enfermement étant conçu d'ailleurs comme le meilleur moyen de leur faire retrouver la mémoire. Mais, d'ailleurs, Louis Le Roger s'en tient à ses prétentions, mais il finit par mourir en prison. Alors lui, il a été en fait tué par ses co-détenus, à qui il refusait de parler, parce qu'il s'estimait justement aristocrate. Alors ça montre, au-delà de cet épisode, en définitive, l'impuissance des autorités à identifier avec certitude, et donc la nécessité de s'en remettre à la déclaration du prisonnier. Cette histoire est aussi celle de la fraude. Au lendemain de mesures royales, par exemple, pour imposer aux soldats des cartouches de congés standardisées, apparaissent des faux, plus ou moins habiles, que le roi, d'ailleurs, doit punir des galères. Les papiers, à mesure qu'ils se multiplient au XVIIIe siècle, sont devenus des documents que l'on s'échange, que l'on se revend, que l'on falsifie, notamment au sein des populations pauvres, qui sont menacées, justement, de contrôle pour lutter contre le vagabondage ou la mendicité. Et ils savent que c'est un moyen pour échapper à la police. On les échange donc dans les tavernes, dans les auberges, sur les routes. Un pèlerin français, par exemple, dont nous avons gardé le journal, qui est en route donc vers Saint-Jacques-de-Compostelle, raconte comment, une fois arrivé en Espagne, il a donné son passeport à un autre Français, déserteur, qui lui voulait retourner en France. Des titres, comme les permissions de mendier, font aussi l'objet de véritables trafics. Dans le Paris du XVIIIe siècle, la police découvre des réseaux parfaitement organisés, associant des écrivains publics qui fabriquent les faux documents, et des pauvres, en particulier des veuves, qui sont envoyés dans les églises pour quêter avec ces documents. À l'époque napoléonienne, tous ceux qui veulent échapper au service militaire dans les armées françaises, là, usent de subterfuges très divers pour entrer dans la clandestinité, mais là, souvent, avec les complicités des employés municipaux ou préfectoraux. Alors plutôt que de brûler volontairement la mairie et l'état civil, ça s'est vu à cette époque, de carrément on met le feu à la mairie, comme ça il n'y a plus d'archives, préfère falsifier ou altérer discrètement les registres de l'état civil, par exemple en changeant l'âge, ou encore on s'enfuit ou on se cache sous une fausse identité avec de faux passeports, notamment en se procurant des formulaires vierges, en volant des cachets ou en fabriquant de faux. Donc l'État et les faussaires en fait s'engagent à partir de cette époque, dans une course de vitesse autour de la technologie qui se poursuit encore. Car ce qu'ont compris les faussaires, c'est que ce que les autorités cherchent à contrôler, ce n'est pas véritablement forcément notre identité, mais elles cherchent à reconnaître les signes de l'authenticité de nos papiers, à reconnaître en fait leurs propres signes dans les documents qu'elles exigent, donc au passage des contrôles. Alors pour conclure, je voudrais insister donc sur l'importance de l'époque moderne dans la genèse de certaines, je dis bien seulement des pratiques donc contemporaines d'identification. Vous voyez l'apparition même de mesures presque biométriques autour donc du signalement. Cela dit, vous voyez que tout cela bute sur un certain nombre d'imperfections qui font qu'on ne peut pas exagérer donc le rôle de ces administrations. Cela dit, cette époque est celle de l'entrée véritablement des Français dans l'âge moderne de l'identification, d'une identification écrite qui repose sur ces documents. Voilà. Je vous remercie.